5. C'était le milieu de l'après-midi. Il faisait suffisamment chaud pour que je sue sang et eau. On n'avait pas croisé de réfugiés depuis un certain temps lorsqu'en bas d'une pente, longue mais pas assez raide pour mériter le nom de colline, j'entendis un raclement derrière moi. Radar s'était déplacé vers l'avant de la charrette, assise sur son postérieur, les pattes avant appuyées sur le rebord, les oreilles dressées. Je m'arrêtai et entendis, droit devant, ce qui aurait pu être un léger halètement. Je repartis, mais m'arrêtai de nouveau avant d'atteindre la crête. Je tendis l'oreille.
« Qu'est-ce que tu dis de ça, mon mignon? Ça chatouille ?»
C'était une voix haut perchée, flûtée, qui se brisa sur mignon et chatouille. Elle avait quelque chose d'étrangement familier, et au bout d'un moment, je compris pourquoi. J'avais l'impression d'entendre Christopher Paulet. Je savais bien que ça ne pouvait pas être lui, mais quand même. Je me remis en marche et m'arrêtai dès que j'eus une vue plongeante sur l'autre versant de la montée. J'avais vu des choses bizarres dans cet autre monde, mais rien d'aussi bizarre que cet enfant assis dans la poussière tenant d'une main les pattes arrière d'un criquet. Le plus gros que j'eus jamais croisé. Il n'était pas noir, mais rouge. Dans son autre main, l'enfant avait une sorte de poignard doté d'une courte lame et d'un manche fendu rafistolé avec de la ficelle. Absorbé par ce qu'il était en train de faire, il ne nous avait pas vus. Il enfonça le poignard dans le ventre du criquet, faisant jaillir un peu de sang. Jusqu'alors, j'ignorais que les criquets pouvaient saigner. D'autres gouttelettes rouges dans la poussière suggéraient que l'enfant se livrait à cette sale activité depuis un bon moment.
« Alors, t'aimes ça, trésor ?»
Le criquet bondit, mais ses pattes arrière étant entravées, l'enfant le retint sans peine.
« Et si je t'en mettais un petit coup dans le... »
Radar aboya. Le gamin se retourna sans lâcher les pattes du gros criquet. Je vis alors que ce n'était pas un enfant, mais un nain, âgé. Des touffes de cheveux blancs, emmêlées, pendaient le long de ses joues. Son visage était sillonné de rides. Celle qui encadrait sa bouche était si profonde qu'il ressemblait à une marionnette de ventriloque, du genre de celle que Léa aurait pu utiliser au lieu de faire croire que son cheval pouvait parler. Si ses traits n'étaient pas à moitié ou totalement fondus, sa peau avait la couleur de l'argile. Et il continuait à me rappeler Poulet, à cause de sa petite taille notamment, mais surtout de la fourberie qui se lisait sur son visage. Si on y ajoutait ce qu'il était en train de faire, je l'imaginais aisément en train d'assassiner un vieux bijoutier boiteux.
« Tu es qui, toi ?»
Aucune peur dans sa réaction, car je me découpais en ombre chinoise sur le fond du ciel et il n'avait pas encore vu le revolver. « Qu'est-ce que vous faites ?»«
J'ai attrapé cette bestiole. Elle était sacrément rapide, mais ce vieux pétarquier n'était plus rapide encore. J'essaie de voir si elle ressent la douleur. » Dieu sait que moi, je la ressens. »
Il poignarda l'insecte encore une fois entre deux plaques de sa carapace. Le criquet rouge saigna et se débattit. Je descendis la pente avec la charrette. Radar se remit à aboyer, toujours dressé à l'avant, pattes tendues.
« Retiens ton chien, petit. C'est un conseil. S'il s'approche de moi, je l'égorge. »
Je reposai la charrette et dégainai le calibre 45 de M. Bodich pour la première fois. « Vous n'égorgerez personne, ni elle ni moi. Arrêtez ça. Lâchez ce criquet !» Le nain, Peterkin, regarda le revolver, plus perplexe qu'apeuré.
« Pourquoi tu veux que j'arrête? Je m'amuse un peu dans un monde où il n'y a plus d'occasion de s'amuser. »
« Vous le torturez !» Peterkin parut abasourdi.
« Je le torture? J'ai rien qu'un foutu insecte. Pauvre idiot! On peut pas torturer un insecte. Je crois pas que... »
Je visais en hauteur, légèrement sur la gauche, et pressai la détente. La détonation fut beaucoup plus assourdissante que dans le cabanon. Radar aboya. Surpris, le nain sursauta et lâcha le criquet, qui s'empressa de détaler dans l'herbe de travers. Ce sale petit bonhomme l'avait mutilé. Ce n'était qu'un nain sec, mais cela ne justifiait pas pour autant le traitement que lui avait infligé Peterkin. Et combien de criquets rouges avais-je vu dans ma vie? Un seul, celui-ci, sans doute était-il aussi rare que les cerfs blancs. Le nain se leva et frotta les fesses de son pantalon d'un vert éclatant. D'un geste, il repoussa sur son front ses touffes de cheveux blancs emmêlés, tel un pianiste qui s'apprête à faire son grand numéro. Malgré son teint d'argile, il était vif. Et même s'il ne pourrait jamais participer à American Idol, il avait plus de voix que la plupart des personnes que j'avais rencontrées au cours de ces dernières 24 heures. Et tous les éléments de son visage étaient présents à l'appel. Hormis sa petite taille, « Surtout, il ne faut jamais dire nain, il déteste ça », m'avait expliqué mon père un jour. Et sa peau merdique, qui aurait eu besoin d'une bonne dose d'Otezla, il semblait plutôt en forme.
« Je vois que tu es un garçon irritable »,
dit-il en me regardant avec dégoût et peut-être, espérais-je, un soupçon de peur.
« Alors je te propose qu'on parte chacun de notre côté. »
« Bonne idée, mais j'ai une question à vous poser avant qu'on se sépare. » Comment se fait-il que votre visage soit plus ou moins normal alors que tant d'autres personnes ici semblent devenir de plus en plus laides ? Non pas que lui-même soit un Apollon, et nul doute que cette question était assez impolie, mais si on ne peut pas être impoli avec un type qu'on a surpris en train de torturer un criquet géant, avec qui alors ?
Peut-être parce que les dieux, si tu crois en eux, m'ont déjà joué un sale tour. Comment un grand gars comme toi peut savoir ce que ressent un petit gars comme moi qui mesure même pas 2 douzaines de mains des pieds à la tête ?
Son ton s'était fait plaintif. C'était le ton de quelqu'un, pour reprendre le langage des AA, qui aimait s'apitoyer sur son sort. Je joignis mon pouce et mon index et les frottais l'un contre l'autre. « Vous voyez ça ? C'est le plus petit violon au monde qui joue « Mon cœur pleure des larmes de pisse ». Le mot « pisse », remarquai-je, sortit sans peine de ma bouche. Le nain fronça les sourcils.
« Quoi ?»«
Laissez tomber, une petite plaisanterie. J'essayais de vous amuser. »«
Si ça ne t'ennuie pas, je vais y aller maintenant. » »«
Très bien. Mais mon chien et moi, on serait plus tranquilles si vous pouviez ranger ce couteau avant.
Sous prétexte que tu fais partie des gens sains, tu te crois supérieur à moi, »
dit le petit homme.
Tu verras ce qu'ils font aux individus de ton espèce s'ils t'attrapent.
Qui ça ?
Les soldats de la nuit.
Qui est-ce ? Et que font-ils aux individus de mon espèce ? Il ricana.
T'occupes ! J'espère juste que tu sais te battre. Mais ça m'étonnerait. Tu as l'air fort comme ça, vu de l'extérieur. Mais je crois que tu es tout mou à l'intérieur. Comme tous ceux qui sont pas obligés de lutter. Tu n'as pas dû sauter beaucoup de repas dans ta vie, hein, jeune homme ?
Vous avez toujours votre couteau à la main, monsieur Peterkin. Rangez-le ou je pourrais vous obliger à le balancer. Le nain glissa le poignard dans son pantalon. J'aurais bien voulu qu'il se blesse en faisant ça. Une vilaine entaille, de préférence. Une mauvaise pensée, assurément. À laquelle en succéda une plus mauvaise encore. Supposons que j'agrippe la main qui avait retenu le criquet rouge par les pattes et que je lui brise le poignet comme je l'avais fait avec Paulet. Une sorte de leçon d'anatomie. Voilà ce qu'on ressent. Je pourrais vous dire que je ne le pensais pas vraiment, mais je crois que si. Il était trop facile de l'imaginer en train d'étrangler Radar pendant qu'il lui plantait son poignard dans le corps, encore et encore. Chose qu'il n'aurait jamais pu faire quand elle était dans sa prime jeunesse, il y avait bien longtemps. Je le laissai partir, néanmoins. Il se retourna juste une fois, avant de basculer de l'autre côté du col, et son regard ne disait pas « Bienvenue sur la route de la ville, jeune étranger. » Son regard disait « Prie pour que je ne te trouve pas endormi. » Aucun risque. Il prenait la même direction que tous les réfugiés. Mais c'est seulement après son départ que je m'aperçus que j'aurais dû l'obliger à lâcher son couteau et à le laisser là. 6. En fin d'après-midi, je cessais de voir des champs labourés et des fermes qui semblaient en pleine activité. Je cessais également de croiser des réfugiés, même si, en passant devant une des fermes abandonnées, je vis des charrettes à bras chargés de possessions diverses dans la cour envahie de mauvaises herbes et un mince panache de fumée qui sortait de la cheminée. Sans doute, quelques personnes ayant décidé de se mettre à l'abri avant que les loups commencent à hurler, songeai-je. Si je n'atteignais pas rapidement la maison de l'oncle de Léa, je serais bien avisé d'en faire autant. Certes, j'avais le revolver de M. Bodditch et le petit calibre 22 de Paulet, Mais les loups se déplacent en meute, généralement. Et peut-être étaient-ils aussi gros que des élans. En outre, mes bras, mes épaules et mon dos commençaient à fatiguer. Heureusement, la charrette était légère et je n'avais pas eu à traverser d'autres zones boueuses. Mais cela faisait longtemps que je la tirais derrière moi depuis mon départ de chez Dora. Trois fois encore, je revis les initiales de M. Bowditch. Deux fois sur des troncs d'arbres dont le feuillage surplombait la route et la dernière fois sur un bloc de rocher. À ce moment-là, la masse informe du soleil avait disparu derrière les arbres et les ombres engloutissaient le paysage. Je n'avais pas vu d'habitation depuis un bon moment et je commençais à craindre d'être surpris par la nuit alors que je me trouvais encore sur la route. Et je n'en avais aucune envie. En seconde, on nous avait demandé d'apprendre par cœur au moins 16 vers d'un poème. Madame Debbins nous avait laissé le choix entre 2 douzaines d'œuvres. J'avais choisi un extrait de « La complainte du vieux marin ». Et aujourd'hui, je regrettais de ne pas avoir pris autre chose, car ces vers résonnaient de manière trop appropriée. J'étais comme une personne qui, dans un chemin solitaire, marche escortée de la peur et de l'effroi, et qui, ayant regardé une fois autour d'elle, continue à avancer sans plus tourner la tête. Parce qu'elle croit qu'un être terrible lui ferme la route par derrière, terminai-je à voix haute. Je posai la charrette et redressai les épaules en contemplant cette inscription « AB » sur le rocher. Monsieur Bowditch s'était surpassé. Les lettres mesuraient au moins 1 mètre de hauteur. « Radar, tu aboies pour m'avertir si jamais tu vois un être terrible derrière nous, d'accord ?» Elle dormait à point fermé dans la charrette. Aucune aide à attendre de ce côté-là. J'envisageais de boire un peu d'eau, j'avais la gorge sèche, mais décidais que ça pouvait attendre. Je voulais continuer à avancer tant qu'il restait encore un peu de lumière du jour. Je repris les ridelles et me remis en marche en songeant qu'à ce stade, une simple remise à bois serait la bienvenue. La route contournait les rochers, puis s'enfonçait en ligne droite dans l'obscurité naissante. Devant, à moins de 2 kilomètres, j'aperçus les fenêtres éclairées d'une maison. En m'approchant, je distinguais une lampe à pétrole accrochée à un poteau devant. Je voyais que la route formait un embranchement à 60 ou 70 mètres derrière la maison, faite de briques, comme celle du petit cochon travailleur dans le conte. Un chemin pavé menait à la porte d'entrée, mais avant de l'emprunter, je m'arrêtais pour examiner la lampe, qui émettait une lumière blanche aveuglante qu'on ne pouvait pas regarder de trop près. J'avais déjà vu la même dans la cave de M. Bowditch, et je n'avais pas besoin d'examiner le socle pour savoir que c'était une Coleman, vendue dans n'importe quelle quincaillerie d'Amérique. Je devinais que cette lampe, à l'instar de la machine à coudre de Dora, était un cadeau de M. Bowditch. « Un lâche offre des cadeaux », avait-il dit. Au centre de la porte se trouvait un heurtoir doré représentant un point. Je posai la charrette et entendis un bruit de pas hésitant. Radar négociait le plancher incliné pour me rejoindre. Au moment où je tendais la main vers le heurtoir, la porte s'ouvrit. Dans l'encadrement apparut un homme, presque aussi grand que moi, mais beaucoup plus maigre, presque décharné. Comme les flammes de la cheminée l'éclairaient par derrière, je ne distinguais pas ses traits. Uniquement le chat sur son épaule et une fine auréole de cheveux blancs qui se dressait autour de son crâne chauve. Quand il s'exprima, j'eus du mal une fois de plus à croire que je n'avais pas pénétré dans un livre de contes dont j'étais devenu un des personnages. « Bonsoir, jeune prince. Je t'attendais. Sois le bienvenu. Entre. » 7. Je m'aperçus que j'avais oublié la laisse de Radar dans la charrette.
Je crois que je ferais mieux d'aller chercher la laisse de ma chienne d'abord. Je ne sais pas comment elle se comporte avec les chats.
« Tout ira bien, » répondit le vieil homme. « En revanche, si tu transportes de la nourriture, je te suggère de la mettre à l'intérieur, si tu ne veux pas que tout ait disparu demain matin. » Je retournai chercher les provisions de Dora et mon sac à dos, ainsi que la laisse au cas où. Le maître de maison s'écarta pour me laisser entrer et s'inclina légèrement. « Entre, Radar, mais sois sage, je compte sur toi. » Radar me suivit dans un salon bien rangé. Un tapis en lirette recouvrait une partie du plancher. Deux fauteuils étaient disposés près de la cheminée. Un livre ouvert était posé à cheval sur un des accoudoirs. D'autres étaient alignés sur une étagère non loin de là. L'autre côté de la pièce était occupé par une cuisine tout en longueur qui ressemblait à la coquerie d'un bateau. Sur la table se trouvait une miche de pain, du fromage, du poulet froid et un bol contenant, je l'aurais parié, de la gelée de cranberry et un pichet en terre cuite. Mon estomac émit un grognement sonore, ce qui fit rire l'homme. « J'ai entendu. Il existe un vieux dicton qui dit « Il faut que jeunesse se passe. On pourrait ajouter « et se nourrisse ». Deux couverts se faisaient face, et près d'un des fauteuils était posé un bol dans lequel Radar buvait déjà bruyamment. « Vous saviez que j'allais venir, n'est-ce pas ? Comment ?»« Connais-tu le nom que l'on préfère ne pas prononcer ?» J'acquiesçais. Dans les histoires comme celle dans laquelle je pensais avoir pénétré, il y avait souvent un nom qu'il ne fallait pas prononcer pour ne pas réveiller le mal. Il ne nous a pas tout pris. Tu as vu que ma nièce était capable de te parler ?
Par l'intermédiaire de son cheval ?
Oui, Falada. Eh bien, Léa me parle à moi aussi, jeune prince, mais rarement. Quand elle le fait, son langage n'est pas toujours clair et projeter ses pensées la fatigue encore plus que projeter sa voix. Nous avons de nombreux sujets à aborder, mais avant cela, allons manger. Viens. Il parle de télépathie, me dis-je. Forcément, car il est évident que Léa ne lui a pas téléphoné et qu'elle ne lui a pas envoyé un texto.
Pourquoi m'appelez-vous jeune prince ?
Il haussa les épaules. Le chat se balançait sur son épaule. C'est une forme de salutation, très ancienne. Peut-être qu'un jour, un véritable prince viendra, mais d'après le son de ta voix, ce n'est pas toi. Tu es très jeune. Il sourit et se tourna vers la cuisine. Le feu de cheminée éclaira pleinement son visage pour la première fois, mais je crois que j'avais déjà deviné la vérité à la manière dont il tendait la main devant lui quand il marchait pour repérer les obstacles. Il était aveugle. 8. Quand il s'assit, le chat sauta au sol. Son épaisse fourrure marron avait des reflets gris. Il s'approcha du Radar. Je l'agrippais par le collier, prêt à intervenir si elle lui sautait dessus. Mais elle se contenta de baisser la tête pour renifler le nez du chat, avant de se coucher. Le chat, lui, passa et repassa plusieurs fois devant elle, tel un officier qui inspecte un soldat lors d'une parade et le trouve un peu négligé. Puis il regagna le coin salon en se dandinant. Il sauta sur le fauteuil, sur l'accoudoir duquel était posé le livre ouvert, et se coucha en boule.
« Je m'appelle Charles Reed. Charlie. Léa vous l'a dit ?»«
Non, ça ne marche pas comme ça. C'est plus comme une intuition. Enchanté, prince Charlie. » Maintenant que le feu de cheminée éclairait son visage, je découvrais que ses yeux étaient aussi inexistants que la bouche de Léa. Il n'en restait que deux cicatrices, refermées depuis longtemps. « Je m'appelle Stephen Woodley. Jadis, je portais un titre, prince régent en l'occurrence, mais cette époque est révolue. » Appelle-moi Woody, si tu veux, vu qu'on vit près des bois, n'est-ce pas ? Catriona et moi.
C'est votre chat ?
Oh oui. Et je crois que ton chien s'appelle Raymar, quelque chose comme ça, j'ai oublié.
Radar, c'était la chienne de M. Bodditch. Il est mort.
Ah, c'est une triste nouvelle.
Il paraissait désolé, mais pas réellement surpris. « Vous le connaissiez bien, monsieur ?»«
Woody, s'il te plaît. On passait le temps, lui et moi. Comme on le fera, toi et moi, Charlie. J'espère. Mais mangeons d'abord. Tu as parcouru un long chemin aujourd'hui, il me semble. »«
Avant, je peux vous poser une question ?»«
Son large sourire transforma son visage en une cascade de rides. « Si tu veux connaître mon âge, je ne m'en souviens pas. Parfois, j'ai l'impression que j'étais déjà vieux quand le monde était encore jeune. »
« Non, il ne s'agit pas de ça. J'ai vu le livre sur le fauteuil et je me demandais, étant donné que vous...
« Comment puis-je lire si je suis aveugle ?»« Va voir. Pendant ce temps, une cuisse ou du blanc ?»«
Du blanc, s'il vous plaît. »
Il nous servit. Sans doute était-il habitué à agir dans le noir, car il n'y avait aucune hésitation dans ses gestes. Je me levai et marchai jusqu'à son fauteuil. Catriona leva vers moi ses yeux verts remplis de sagesse. C'était un vieux livre dont la couverture représentait des chauves-souris se détachant en ombre chinoise devant la pleine lune. « L'ange noir » de Cornell Woolrich. Il aurait pu provenir de la pile de romans dans la chambre de M. Bowditch. À cette différence près, qu'en regardant la page à laquelle s'était arrêté Woody, je ne vis que des petits groupes de points blancs en relief à la place des mots. Je reposai le livre et revins vers la table. « Vous lisez le braille ?» dis-je. En songeant, la langue doit changer dans les livres également. Elle doit être traduite. Bizarre, non ? Oui. Adrien m'a offert un manuel et il m'a montré les lettres. À partir de là, j'ai pu apprendre tout seul. De temps en temps, il m'apportait des livres en braille. Il avait un faible pour les histoires fantaisistes, du genre de celles que j'étais justement en train de lire en attendant ton arrivée. Des hommes dangereux et des demoiselles en détresse qui vivent dans un monde très différent du nôtre. Il secoua la tête en riant, comme si lire des œuvres de fiction était une activité frivole, voire insensée. La proximité du feu rosissait ses joues sur lesquelles je ne voyais aucune trace de gris. Il était sain, sans l'être totalement. Sa nièce non plus. Lui n'avait pas d'yeux pour voir, et elle n'avait pas de bouche pour parler, uniquement une sorte d'escarre qu'elle ouvrait avec son ongle afin de se nourrir tant bien que mal. Qui parlait de demoiselle en détresse ? Viens t'asseoir. Je repris ma place. Dehors, un loup hurla. J'en déduisis que la lune, les lunes, avaient fait leur apparition. Heureusement, nous étions à l'abri dans cette maison de briques. Et si un loup descendait par la cheminée, il se roussirait les poils. « Ce monde me semble tellement irréel, » dis-je.
« Si tu restes ici assez longtemps, c'est le tien qui t'apparaîtra comme une illusion. » Maintenant, mange, Charlie.